Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Si jamais vous avez vos bibles avec vous, ça va être là qu'on va lire un peu plus tard. Ben, je te sens loin, mais je sais que tu es proche. Fait que Ben et moi, on va partager ensemble sous format un peu plus discussion. On va jaser ensemble avec vous autres. Veux-tu commencer par la prière? Ben?
Ah, merci Seigneur pour nous permettre de nous rassembler ici, même s'il y a quelques contraintes. C'est tellement peu comparé à ce qu'on peut recevoir quand on vient te rencontrer, Seigneur. Fait que merci pour toutes les gens qui sont là. J'espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre. Amen.
Amen. Avant de commencer, on parle de la tentation aujourd'hui. Et donc, je me rappelais quand je suis arrivé au Seigneur, j'avais l'âge de 17 ans. J'étais un aspirateur de tout ce que le monde avait à offrir. J'avais soif d'être aimé par mes pères, donc je faisais toutes sortes de gaffes, là, que ce soit de la drogue ou des mauvais coups, pour être accepté par mes pères. Mais je faisais aussi beaucoup de choses pour être accepté de mon père, P-E-R-E. Puis, j'ai été dernièrement on m'a demandé d'aller dans des salles de serveurs, puis ils ont un gros problème, ils mettent les serveurs au sol, puis ça ramasse toute la poussière des bureaux, des alentours. Fait qu'ils sont pleins de poussière, tu sais. C'était un petit peu comme ça que mon cœur était quand j'ai accepté le Seigneur. J'avais un cœur poussiéreux. Puis je m'aperçois que si je check pas qu'est-ce qui rentre dans ce ventilateur-là, je peux encore être un cœur poussiéreux, prendre les choses qui sont à portée, qui sont proches. Puis c'est un peu ça que je réalisais. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, ben j'ai su que Jésus était mort pour mes péchés, puis qu'il m'avait purifié, puis pour moi, le péché, c'était passé, tu sais. On va percevoir qu'il y avait toujours cette machine-là, ce ventilateur-là qui avait tout à prendre, tu sais. Puis j'ai réalisé que de plus en plus, comme Ben disait quand on préparait ce message-là, c'est que le monde a des choses à offrir, puis il faut peser qu'est-ce que le monde a à offrir, puis de voir si ça vaut cher la livre ou pas, tu sais. Et puis, tranquillement, j'ai compris que j'ai des opportunités de choisir Dieu plutôt que les choix d'avant. Et que Dieu, il fera pas à ma place la job qu'il m'a demandé de faire. C'est moi, le jeune homme, qui dois rendre mon sentier pur. C'est à moi de changer les décisions. À cette heure, je faisais ça. Maintenant, je le fais plus comme ça. Parce que j'ai appris de Dieu qu'il y a une meilleure façon à faire. Puis c'est encore un combat. Je réalise que je suis encore plein de poussière. J'ai vraiment besoin que le Seigneur passe son aspirateur, là, puis qu'il lave mon cœur régulièrement. Fait que... Toi, Ben... Quand tu repenses à ta conversion, quand tu es venu à Dieu?
Ouais, moi, c'est une bien longue histoire. Moi, quand j'ai grandi, pour moi, c'était normal parce que j'ai grandi là-dedans. Là. J'ai grandi dans une famille que les parents ne s'aimaient pas puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour pour les enfants même. Là. Ben moi, pour moi, c'était comme ça puis c'était normal. Fait qu'on s'occupait autrement. Là. Puis... Quand j'ai vieilli, quand j'ai été en âge d'avoir une conjointe, ça m'attirait pas plus que ça parce que mon père et ma mère, ils s'aimaient pas trop. Fait que moi, pour moi, je courais pas après ça. Puis j'ai eu une mauvaise expérience dans vingtaine aussi, là, dans ce domaine-là. Puis là, ben, en tout cas, ça s'est ramassé que je travaillais. Puis, là, je me suis ramassé dans la trentaine. J'avais comme fait une croix sur le fait de pouvoir fonder une famille. Puis, à 34 ans, j'avais 34 ans, j'ai rencontré une jeune femme, là, comme sur le party un peu. Puis, en tout cas, on a comme fondé une famille un peu n'importe comment. Là. Puis, Je vous dirais qu'il y a été un bout qu'il y avait de l'amour dans notre couple, pas mal. Là. Puis là, moi, j'avais atteint quelque chose que j'avais même pas connu quand j'étais jeune. J'avais pas vu ça de mes parents, mais c'est sûr qu'en grandissant, je voyais de mes oncles et mes tantes, mettons, qui étaient mariés, puis eux autres, tu voyais qu'ils s'aimaient. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je voyais que là, wow, c'était ben pas normal quand j'étais jeune chez nous. Là. Puis là, ben un moment donné, ma vie de couple s'est terminée. Puis là, moi, j'ai trouvé ça extrêmement dur là, parce que j'avais atteint quelque chose que je pensais même pas pouvoir avoir. Puis je l'ai perdu. Fait que là, ben c'est dans ce temps-là que j'ai découvert Dieu, parce que je cherchais beaucoup de réponses à la vie, c'est quoi la vie, puis comment ça se fait que ça se passe de même, puis comment ça se fait que ça marche pas, moi ça fait 17-18 ans d'après moi que j'ai commencé à aller dans une église, là, je pourrais vous dire qu'avec le temps, tranquillement pas vite, là, j'ai pas fait confiance à Dieu tout de suite, là, puis même j'ai fait même pas encore pleinement confiance. On est dur de comprendre des fois, mais je me suis aperçu que dans n'importe quel domaine de notre vie, qu'est-ce qui vient de Dieu, c'est parfait. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est fait que j'apprends, même à l'âge que je suis rendu, j'apprends encore à y faire de plus en plus confiance. Puis ça se fait. Moi, en gros, c'est ça que j'ai vécu. Puis c'est ça, j'ai passé par les tentations inimaginable, c'est ça. Là, je suis rendu jusqu'à ce que je suis là.
Même dans ton histoire, on voit que même quand que Dieu donne un conjoint, il n'est pas conçu pour combler tous mes besoins. Puis que quand on approche un couple parce qu'on pense que c'est ça qui va combler tous mes besoins, on arrive au désert éventuellement, parce que ni moi ni ma femme on a été conçus pour combler complètement le cœur d'une autre personne. Fait que c'est quand même Dieu qui donne un conjoint, c'est Dieu qui donne un travail, qui nous aide à résoudre un problème qu'on a dans notre vie de tous les jours. C'est Dieu qui va nous aider à un jour à se réconcilier. C'est Dieu qui donne le repos, le vrai repos de l'âme. C'est Dieu qui donne la restauration, qui répare les cœurs brisés. C'est Dieu qui donne la paix, des vraies amitiés. C'est Dieu qui nous donne des conseils. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est le Dieu de toute grâce. Un bon verset qui résume « Dieu veut te bénir », c'est dans Jacques 1,17 qui dit que « tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation ». Aujourd'hui, notre objectif à Ben et moi, dans notre discussion, c'est de réaliser qu'on a besoin de patience, puis de s'attendre que, même si on va être testé, qu'on ait cette attente-là que Dieu va nous bénir, qu'il a préparé des belles choses, des belles et des merveilleuses choses pour nous autres, puis qu'on ne perde pas courage, puis quand on est tenté ou éprouvé. Fait que, on prie que ce soit ça, que ça va faire le message aujourd'hui pour vous autres. Fait que, on va commencer avec, justement, l'exemple de tentation au désert, en voyant que Jésus lui-même a été tenté. Donc, je vais laisser la parole à Ben.
Bon. Fait que, dans la Bible, Dieu permet que nous soyons tentés ou testés. Là. C'est un peu la même affaire. Fait que Dieu, par le baptême puis par les tentations, il a voulu montrer que Jésus il était approuvé, puis que c'était lui qui l'avait envoyé, puis que c'est lui qui l'avait envoyé même au désert pour être tenté.
Ces deux événements qui arrivent côte à côte, hein?
Ouais, ouais, parce que même dans Marc, ça dit « Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert, tout de suite après le baptême, sa presse va-t'en là. » Matthieu, lui, il dit qu'il a été conduit au désert pour être tenté. Il a été conduit au désert par Dieu. Puis Luc, il rapporte le Saint-Esprit deux fois, parce que quand il a eu le baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Puis ça dit tout de suite après que le Saint-Esprit l'a conduit au désert, l'a poussé au désert.
Fait qu'au baptême, il entend une voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai eu mon affection. » Ah. Puis à la tentation, le diable dit « si tu es le Fils de Dieu ».
Il disait tout le temps ça.
« Si tu es le Fils de Dieu ». Donc, ce qui a été dit au baptême est testé à la tentation. Ah.
Mais si on se souvient que Jésus devait... Ah, c'est ça. Pour que Jésus puisse devenir notre souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il intercède tout le temps pour nous autres, auprès de son Père maintenant, après tout ce qu'il a vécu. Il fallait premièrement qu'il s'identifie, il fallait qu'il connaisse le même tentateur que nous autres. Il fallait qu'il passe par des tentations, pareil comme nous autres, pour pouvoir dire après, ben oui, je comprends, quand vous êtes tenté.
Parce que quand on allait voir le sacrificateur, c'est jamais parce qu'on avait fait une bonne job.
Non, ça allait pas bien.
on avait péché, puis on venait avec une offrande, un animal pour sacrifice pour les péchés qu'on avait faits.
Puis, Hébreux 4.15, ça le dit clairement, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le souverain sacrificateur, justement, comme avant Jésus, là, fallait que ça ait pris parmi les hommes. Fallait que ça soit un homme. Puis c'était un homme qui représentait les hommes. Puis lui-même, il devait avoir compassion des gens qui se présentaient à lui, parce que lui-même, il vivait les mêmes affaires. Il partageait leurs faiblesses. Quand il offrait des sacrifices, c'était pas juste pour les gens qui venaient puis qui amenaient des sacrifices pour eux autres. Il en faisait pour lui-même aussi. Puis c'était important qu'il fasse ça. Puis Jésus, il a été placé dans cette position-là. Puis lui, il a obtenu d'être souverain sacrificateur. Mais lui, c'est après avoir tout fait, là. Parce que il a fallu qu'il commence par être tenté, puis testé. Il a réussi. Puis il a été crucifié aussi après ça, là.
Oui, puis le livre des Hébreux dit que jamais un sacrificateur se place là. Hein? C'est son Père qui l'a placé là. Puis comme tu dis, c'est après sa résurrection que Dieu lui dit qu'il a été sacrificateur pour toujours. Fait qu'on a présentement un sacrificateur dans les cieux qui prie pour nous. Puis à chaque fois qu'on pêche, qu'il présente son sang, au lieu de présenter un animal qu'on lui apporterait, il présente son propre sang, sa mort à la croix comme étant suffisante pour qu'on reste sauvé. Et comme quoi que c'est un salut qui est son sang est suffisant pour nous sauver. Et puisqu'on a accepté qu'il soit notre sacrificateur, ben on a accès au Père par ce sacrificateur-là, qui présente son sang continuellement devant le Père. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 7 qu'on voit ça. Puis lui, dans le fond, la tentation pourrait dire que Jésus s'est identifié à deux classes de personnes, ça pourrait dire. Tu veux-tu nous en parler un peu plus, Ben?
Oui, juste avant, je voudrais dire que Une parole de pasteur Richard, lui, il a déjà amené ça que, ben, dans la vie chrétienne, c'est pas mal ça, là, c'est la souffrance en premier, la gloire vient après. Quelqu'un qui est tenté puis qui veut avoir la gloire tout de suite, et c'est pas la bonne méthode. Bon, premièrement, Jésus, ben, il s'est identifié au peuple d'Israël, par les tentations. Il y a plusieurs similitudes qui nous rapportent ça. Le peuple d'Israël, quand ils sont venus à bout de sortir de l'Égypte, là, ils sont venus à bout de foutre le camp de là, ils ont été appelés fils de Dieu. Le peuple a été appelé fils de Dieu. Puis Jésus aussi, il a été appelé fils de Dieu. Même Satan disait, si tu es le fils de Dieu. Jésus, il a jeûné 40 jours au désert. Le peuple d'Israël, il a erré 40 ans dans le désert. Puis je pense que 40, c'est un chiffre qui veut dire de quoi. Là.
En tout cas, certainement, quand ils ont dit 40, ils ont sûrement revenu à 40 jours, le déluge de Noé, il y a eu de la pluie pendant 40 jours. Ils ont le désert pendant 40 ans. T'sais, le 40 devait amener une question chez le peuple juif, dire, ben, qu'est-ce qu'il y a de similaire, là? Je ne sais pas pour le chiffre 40.
Puis Jésus, il a été tenté dans le désert. Le peuple d'Israël, il a été tenté dans le désert aussi. C'est une similitude. Le peuple de Dieu, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus aussi, il a été conduit.
Dans quelle façon qu'il était conduit par le Saint-Esprit?
Le peuple, il y avait, pendant la nuit, il y avait comme une colonne de feu qui les éclairait. Parce qu'eux autres, ils marchaient jour et nuit, je pense. Puis pendant le jour, il y avait comme une nuée, une ombre, pour pas qu'il y ait trop chaud. Parce que dans le désert, il fait chaud. C'était quasiment comme un air climatisé pour moi et pour eux autres. OK. Puis aussi, quand Jésus il répondait à Satan, il y a les trois fois, il a cité des paroles du livre de Deutéronome. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, le livre de Deutéronome?
Ça, c'est le livre d'alliance avec Israël. C'est le mariage, c'est un contrat de mariage entre Dieu et Israël.
Puis, Dieu voulait que son peuple croie en ses promesses, comme en Deutéronome 8, 2 et 3.
Je vais le lire.
Ouais.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
Fait que, qu'est-ce qui sort de tout ça? Parce que on sait que le peuple d'Israël, il passait le temps à se plaindre, puis il se rebellait, puis la manne s'était passée, puis il voulait de l'eau, puis là, on va mourir au désert. On peut dire que là où Israël a échoué, Jésus, lui, il a réussi. Jésus, il a fait tout ce qu'il fallait.
Excellent. Je vais me préparer à lire dans Matthieu 4. Si jamais vous avez vos Bibles, on va aller dans Matthieu 4. Puis on voit dans ce passage-là que Dieu se vante de son Fils, en tout cas dans le baptême juste avant. Hein, c'est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Puis on voit que Dieu s'est vanté de son Fils, puis que le diable attaque ce que Dieu s'est vanté de son Fils. Un peu comme dans Job, quand Dieu dit au diable, « Hey, t'as-tu vu mon serviteur Job, le juste, tu sais? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre, puis le diable, il va demander à l'attaquer. » Pour voir si c'est vrai qu'est-ce que le Père a dit. Donc, on voit un petit peu ce pattern-là qui se passe. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur la fête du temple. Et il lui dit, je crois que c'est la Darby que j'ai, fait excusez si ça ne suit pas exactement comme votre verset. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laisse, et voici des anges s'approchent et le servent.
Bon, là-dedans, on a trois types de tentations. On va les regarder une par une. La première, c'est changer les pierres en pain. Ça parle de satisfaire ses propres besoins en dehors de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Puis lui, il a répondu, vive par la parole. Même s'il souffrait de la faim, il voulait pas utiliser sa capacité de faire des miracles pour manger. Puis pourtant, il aurait pu le faire. C'est quoi la preuve de ça qu'on a?
Il a multiplié les pains à deux reprises?
Deux fois. Mm-hmm. Du pain, il aurait pu en avoir tant qu'il voulait. La deuxième, c'était forcer la main de Dieu pour que Dieu fasse de quoi? Il s'est servi d'un verset. Satan, il a été chercher un verset dans la Bible qui promet que Dieu va prendre soin de lui si jamais il y a un danger qu'il se blesse ou de quoi. Mais Jésus, lui, il veut pas tenter Dieu. Puis il ne veut pas créer une opportunité pour que Dieu soit obligé de s'en mêler, si on veut. Puis la troisième, c'est pas la moindre, tous les royaumes de la terre. Ça, c'est offrir à Jésus de devenir le roi de la terre avant son temps. Puis faire un compromis. Puis là-dedans, Jésus, il ne contredit pas le fait que Satan peut y donner tous les royaumes de la terre. Parce qu'on sait que Satan, c'est le prince de ce monde. Puis qui peut le gâter. Mais il ne veut pas servir Satan parce que là, pour faire ça, il faudrait qu'il adore Satan. Lui, il veut adorer le Père, point final.
Dans cette histoire-là, on voit que le Saint-Esprit il remplit Jésus pour être conduit au désert et pour être tenté par le diable. Puis on est en droit de se poser la question, mais pourquoi moi, Dieu permet-il? Ou pourquoi Dieu conduit-il dans un chemin où je pourrais être tenté moi aussi? Tu sais? Puis on va regarder des choses que Dieu ne fait pas avant de regarder pourquoi est-ce que Dieu me conduirait dans des endroits où je vais devoir être testé moi aussi. On va regarder qu'est-ce qu'il ne fait pas. Puis une des choses qu'il ne fait pas, c'est que Dieu ne veut pas qu'on pêche. Dieu, il voudrait que je sois conduit à un endroit pour que je pêche. Comme quand que Jésus a été conduit au désert par le Père, il n'a pas été conduit pour que le Fils pêche, mais il a été conduit pour révéler quelque chose à propos de son Fils. Dans Jacques 1,13, c'est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, dans ce passage-là, on voit que si Dieu il nous conduit à un endroit où il y a de la tentation, il veut pas, son désir pour nous, c'est pas qu'on désobéisse. Ça dépasse notre capacité.
C'est vraiment clair pour le tout.
Je pense que le prochain passage, si tu veux le lire, il est aussi très clair.
Ouais. En fait, Dieu... Il veut pas que le tentateur me tente de quelque chose de plus que je suis capable de résister. En fait, c'est tout le temps lui qui permet. Dans 1 Corinthiens 10, 13, on va le lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que non seulement il nous protège, il ne permet pas qu'on soit tenté pour trop fortement. Lui-même, il nous aide à résister à ça. Il nous donne des moyens.
On va devenir plus résistant, on va devenir de plus en plus capable de la supporter quand elle va revenir, cette tentation-là, on va devenir plus fort. Puis c'est au travers la tentation qu'on va trouver le moyen de s'en sortir, pas en dehors, c'est pas en nous s'aspergeant d'alcool, en nous immunisant complètement contre le mal, qu'on va devenir meilleur contre le mal, c'est en étant exposé. Dans Jean 17, il dit « Je te prie pas de les enlever du monde, je te prie de les préserver du monde. »
Puis, comme dans le cas de Job, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Job, là, Satan, avant de faire de quoi, il fallait qu'il demande la permission à Dieu. Puis là, Dieu il disait « Oui, tu peux faire ça. Ça, tu peux. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux. Ça, tu peux pas. »
Même avec Pierre, Jésus disait « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Puis Jésus va dire « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Fait que le Seigneur dit à Pierre « Il y a un combat, tu ne seras pas épargné de ce combat-là. Tu vas aller dans le ring avec l'adversaire, mais j'ai prié pour toi. » pour que ta foi ne défaille pas. Que tu restes ferme dans ta foi, dans ton combat.
Ouais. Puis on peut dire aussi que Jésus, en tant que sacrificateur, il ne fait pas juste d'intercéder pour nous autres. Il prie pour nous autres. Pour que dans cette histoire-là de tentation, que ça se passe bien, qu'on ne soit pas trop tenté, puis avoir des moyens pour passer au travers.
Puis même, il nous donne dans le Notre Père, il dit « Priez pour être protégé du malin ». Puis il nous dit « Priez de ne pas être induit dans la tentation », mais dans le littéral, c'est de ne pas être conduit dans la tentation, parce que Dieu, là où il ne nous conduit pas en dehors du monde, il nous conduit au travers le monde. Mais Seigneur, fait que aujourd'hui, si le tentateur, ma chair ou le monde pourrait avoir le dessus sur moi parce que je suis dans un état de faiblesse, conduis-moi pas dans des endroits que je pourrais tomber. Donc, conduis-moi, Père. Puis, protège-moi du malin. Fait qu'il nous a demandé de nous-mêmes se galvaniser ou de se mettre une protection sur soi-même par la prière quand on prie le Père. Donc, on a vu en premier lieu qu'est-ce que c'était pas. Dieu, il veut pas qu'on pêche, puis il veut pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, puis il met même un frein à l'ennemi pour pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais il nous enlève pas du monde, il nous laisse dans le monde. Maintenant, on va essayer de voir à répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois tenté? Puis on a identifié ensemble deux grandes raisons. Je vais te laisser commencer avec la première, Ben.
OK. Pourquoi qu'on est tenté? Jésus, lui, c'est sûr que lui, il savait que Dieu, il avait le meilleur pour lui. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il soit patient pour. Parce que la preuve de ça, ben, il y a des anges qui sont venus le servir après tout ça. Là c'est, ils ont pas réussi à amener du pain, selon moi. Là.
Tu penses qu'il y avait un gros snack?
Oui. Poutine, puis.
Non, mais. Ça... Les anges sont venus le servir, c'est pas rien.
Oui, vraiment, là. Puis Jésus savait qu'un jour, les royaumes de la terre, il va les avoir, ils vont être à lui. Puis c'est pas de cette façon-là.
C'est vrai, le psaume 2 dit, « Mon fils, je te donnerai les royaumes de la terre si tu me les demandes. »
Oui, c'est dans le psaume 2, oui. Puis il n'a pas créé des occasions pour que son père soit là puis qu'il intervienne tout le temps. Ça veut pas dire que son père il était pas là quand il avait besoin.
Puis, tu sais, à un moment donné, quand il était plus jeune, son premier ministère qu'il a fait, c'est dans la ville natale de Nazareth, là où il a grandi, le petit Jésus, les gens le connaissaient dans le village, puis c'est écrit, ils l'ont jeté en dehors du village, ils l'ont fait monter sur la montagne, puis ils voulaient le jeter en bas, fait qu'il n'y avait pas de politesse là. Puis c'est écrit, il passa au travers d'eux, car son temps n'était pas venu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'ils sont
devenus... C'est passé de quoi, certains?
S'ils sont devenus aveugles ou quoi, mais Dieu, il allait le protéger s'il en allait en avoir besoin, mais il n'était pas pour tester que Dieu le protège en se jetant en bas d'une montagne ou d'un temple. Excellent.
Fait que là, c'est sûr que Dieu veut nous montrer qu'il y a mieux à nous offrir que qu'est-ce que le péché a pour nous autres. Parce que bon, tout le monde le sait à cette heure. Le péché, à cette heure, ça peut faire du bien pendant un bout, là. Puis c'est du bien, c'est pas trop du bien. Puis à la fin de tout, ça va plus détruire la personne qui vit dans le péché. Ça satisfait momentanément. Ça, c'est Jean-Sébastien. Puis, monsieur, mettons comme un Big Mac pis un Coke.
Ça fait sur le coup.
Puis là, lui, ben, il a écrit « Après, t'as mal au foie », mais moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire.
En tout cas, moi, je me rappelle d'être venu, je venais à chaque semaine ici dans les Bois-Francs, puis je mangeais toujours des Big Macs à la route. Puis à un moment donné, pendant les louanges, j'ai dit « Faites plus de chants ». J'étais allé aux toilettes.
Ouais.
J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, barrer du foie.
Ouais, non. Je fais des blagues, là.
Toi, t'as pas connu ça, Ben?
Non.
Tu sais, Dieu, le péché, il est très instantané, il est rapide et accessible, comme un McDo que tu es servi rapidement, mais tu vas à la toilette rapidement avec aussi. Mais c'est la même affaire avec le péché. Le péché, il va amener une gratification immédiate, mais il va amener la mort dans ton âme, puis il va te corrompre. La Bible dit, celui qui sème pour le péché va récolter la corruption. Fait que tu sèmes la mort dans ta vie. Puis Dieu, lui, la façon qu'il veut nous bénir, c'est peut-être un petit peu plus long. C'est-à-dire qu'il va nous donner la paix, le repos, le bonheur, mais il va falloir qu'on soit patient. Il va falloir qu'on soit patient pour qu'on sache comment Dieu travaille. Dans le Proverbe 2, il va dire « Alors tu comprendras toutes les routes qui mènent au bien. » Mais si tu lis, tu sais, ça c'est au verset 7 ou 8, mais si tu lis tous les versets du Proverbe 2, là, au début c'est « Mon fils, si tu inclines ton oreille vers l'intelligence, si tu penches ton cœur vers la sagesse, alors tu comprendras les voies tortueuses et tu comprendras aussi les routes qui mènent au bien. » Puis tu sais, il dit la sagesse va venir dans ton âme, ça va te délecter, tu vas avoir un bonheur, tu sais. Tu vas être gardé des gens qui ont des discours pervers, de la femme, etc., qui abandonne l'ami de sa jeunesse, etc. Tu vas être gardé de plein de tentations. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, il y a tout un travail de patience qui a été fait que monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, elle a pris le temps d'écouter la parole puis de prendre dans son cœur qu'est-ce qui plaisait à Dieu puis a décidé de semer dans son jardin des arbres fruitiers. Vous savez, en Israël, ou ici même au Québec, quand on fait un pied de vigne, je regardais ça sur Internet, je cherchais comment ça prend de temps. Ça prend à peu près 4 ans avant d'avoir une vigne qui va produire le fruit que tu t'attends d'elle. Première année, il enlève les grappes, il en laisse juste une dessus. Deuxième année, il enlève des feuilles pour que le soleil rentre, bon, etc. Puis là, il y a un endurcissement du tronc. Puis là, il y a une sève qui monte. Puis là, à peu près 4 ans après que la vigne a été... plantée, elle va produire vraiment son fruit qui va devenir à maturité. Puis l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Il doit apprendre à être patient, puis semer dans son jardin, puis il va attendre pour le meilleur fruit. Dieu a plus que le péché à offrir, mais c'est pas aussi instantané parce qu'il veut qu'on devienne un petit peu plus comme Jésus aussi. Il veut qu'on passe au travers les tentations, puis qu'on dise « Non, je ne veux pas ce que le péché a à m'offrir, je veux ce que le Père a à m'offrir. » Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puis Jean 1 Jean 2,16, il va dire le monde et sa convoitise passent, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Jésus dit que dans Jean 15, qu'on va porter du fruit, puis on va avoir un fruit qui va demeurer, puis on va demander des choses au Père, puis on va les obtenir en son nom. Il va continuellement nous faire porter du fruit, puis ce fruit-là, c'est un fruit qui va demeurer. Ça ne sera pas quelque chose de momentané, ça ne sera pas des petits bonheurs de temps en temps. Ça va être le bonheur du psaume 1. Dans le psaume 1, tu vois un homme heureux. Puis la première affaire que tu vois dans le psaume 1, c'est une série de choses à ne pas faire. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils des méchants. Il choisit les canaux qu'il écoute. Il choisit à quoi il ajoute sa foi. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a une voie. C'est une voie qu'il a empruntée. Il a souvent pris la traîne et tapé, tu sais. Là, il a accepté le Seigneur, puis il se rappelle dans le psaume 119, c'est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Bien, comment? Ça veut dire que son sentier n'était pas pur avant. Psaume 119, versets
9 et 10,
il dit « Comment rendra-t-il pur son sentier? » C'est en marchant selon ta parole. Puis le psalmiste va dire, je te cherche de tout mon cœur, ne permets pas que je m'éloigne de tes commandements. Donc, il était un temps où mon sentier était un peu, puis il l'est encore. J'ai de la poussière dans mon ventilateur. Il y a des choses que je laisse rentrer que je dois encore, après 20, 30 ans de vie chrétienne, dire, j'ai besoin de faire un nouveau sillon, puis de ne pas marcher dans la voie des pécheurs. J'ai marché jusqu'à aujourd'hui dans la voie des pécheurs, dans cet aspect-là. Et aujourd'hui, je vais décider d'être patient, puis je vais nettoyer mon sentier. Comment tu nettoies? Bien, il n'est pas à nettoyer, c'est un autre qu'il faut que tu prennes. Quel sentier est-ce que je vais prendre? C'est un sentier qui ne m'apportera pas gratification tout de suite. C'est pour ça que le jeûne, c'est excellent. Pourquoi? Parce que le jeûne, tu sérieux, tout ton corps crie pour le frigidaire. Là. Je veux dire, quand tu es rendu à la 3e ou à la 7e journée, j'ose même pas imaginer 40 jours sans eau, là. Mais il y a quelque chose dans le corps qui dit « Crème, c'est bien beau de me manger moi-même, là, tu sais. Mais je veux de la nourriture. » Puis pour ceux qui l'ont essayé un peu, le jeûne, qui peuvent le faire aussi pour leur santé, c'est très émotionnel manger. Tu as juste à arrêter pendant 2 jours puis voir comment tes émotions passent par le frigidaire ou par juste quelque chose de sucré qui va faire que mon cerveau il sent qu'on est bien là, dans ce corps-là. Tu sais.
Je peux t'amener une petite parenthèse, là? C'est pas dans nos feuilles. Jean-Seb, il parlait tantôt de la vigne là, qui prend 4 ans avant de produire. C'est vrai, moi, je lis beaucoup sur... Je suis au courant. Les champs de canneberge. Les champs de canneberge, c'est à peu près semblable. Là. Je sais pas si c'est 4 ans. Là. Puis un champ de canneberge, ben, je trouve qu'il y a une similitude avec ce qu'on parle. Parce que semer un champ de canneberge, c'est des énormes investissements. un champ de 10-15 acres, là, ça coûte, je me souviens plus, 50 000 piastres l'acre ou 100 000 piastres l'acre. Ça coûte une fortune. Fait que semer un champ de canneberge, ça coûte beaucoup, mais les gars, ils font pareil parce qu'ils savent qu'il va avoir une récolte quand le moment va être venu. Je trouve que ça fait une belle comparaison.
Disons qu'aller acheter le paquet de canneberge puis le manger tout de suite, c'est pas comme de l'avoir semé, de l'avoir fait sécher puis tout.
Ouais.
Ok, wow.
C'est
super,
ça.
C'est un bel exemple de persévérance. On va regarder une vidéo. Je vous présente Miss Suisse Romande. Donc, c'est une jeune femme, une jolie jeune femme qui était devenue un mannequin. Puis, elle raconte un petit peu avec le ministère Je suis deuxième son histoire.
C'est vraiment. C'est dur parce qu'on est constamment jugé de la tête aux pieds. Et c'est difficile quand on reçoit certaines remarques. Ou celle-ci, elle est trop plate. Celle-ci, elle a des grosses cuisses. Celle-ci, elle a des cheveux trop courts. Ça va de n'importe quoi. Hein. Je mangeais pas, en fait. J'ai perdu appétit. Là, j'ai commencé à perdre du poids beaucoup. Je faisais tellement de choses en même temps. Mais là, c'est même plus moi qui contrôlais ça. C'est juste que mon corps, il était fatigué, en fait. J'ai toujours eu des limites. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, ou 1 an et demi, on m'a dit, c'est soit tu décides d'aller au-delà de tes limites pour qu'on puisse encore parler de toi, ou alors ça va s'arrêter, quoi, gentiment. Et moi, j'ai vraiment répondu, alors on continue, quoi. Et j'ai regretté. À la fin de mon règne, j'ai rencontré l'ami d'une amie. Mon ami me dit, fais attention parce qu'il est un peu étrange. Mais moi, c'est vrai que ça m'a fait l'inverse. J'avais vraiment envie de comprendre en quoi il était étrange parce que c'était pas ma première impression. Et c'est vrai qu'en le connaissant mieux, j'ai vraiment compris qu'il était pas du tout fou, mais qu'il avait simplement une relation avec Dieu. J'ai découvert vraiment une personnalité qui me plaisait. Et il avait des valeurs, en fait. Des très belles valeurs. Que j'avais vues chez personne. Aucun homme du milieu dans lequel j'étais avait ces valeurs-là. J'ai vraiment demandé à Dieu de m'envoyer des signes. Voilà, si t'existes, montre-moi des choses comme quoi je peux croire en toi. Et j'en ai eu. Je me souviens toujours, j'avais parlé de ma collègue de Dieu et de Jésus. J'avais dit, tu te rends compte, ça existe. J'ai demandé des signes et elle n'était pas du tout croyante. Puis elle était là, regarde voir cette dame, c'est Jésus qui te l'envoie. Et puis en rigolant, quoi. Et moi, j'ai regardé cette dame. Elle devait avoir passé 80 ans. Et puis elle était chou, elle a une petite jupe écossaise. Puis elle a une grosse croix qui pendait là sur elle. Puis un sourire, mais surtout, et des rides super belles. J'ai été droit sur elle. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui vous rend aussi belle, quoi? J'ai dit, vous êtes tellement pleine de joie. Puis elle m'a dit, c'est Dieu qui me rend si bien dans ma vie. Je rentrais tous les jours en bus et ce jour-là, je crois que c'était aussi le jour où j'avais demandé des signes, je me pose dans le bus, fatiguée comme ça, et j'ouvre les yeux et le siège devant moi, c'était gravé, suis Dieu et t'iras où tu veux aller.
Excellent. Merci pour l'extrait. C'est un extrait quand même de 10 minutes, là, puis je voulais nous laisser la chance de continuer un petit peu sur le morceau important de ce qu'elle nous a parlé. Je vais revenir sur cette vidéo-là tout à l'heure. Donc, on a vu la première raison pourquoi Dieu laisse le tentateur. On l'a vu à l'écran. Je vais remettre le PowerPoint juste pour que, si jamais on suit le chemin de pensée. C'était pour développer en nous la patience d'attendre ce que Dieu a de meilleur pour nous. On voyait que dans l'histoire de Jésus, Dieu avait les peuples, toutes les nations allaient être réunies sous lui éventuellement, que Dieu allait le nourrir même par des anges, pas juste en transformant du pain. Tu sais, Dieu avait quelque chose de bon pour le fils, puis on peut aussi s'attendre, comme un peu comme cette jeune fille-là, à dire Dieu a quelque chose de beaucoup plus que nous, que juste vivre dans le regard des autres, tu sais, pour notre identité. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous permet la tentation, c'est pour nous former à ressembler plus à Jésus dans notre obéissance. Et là, on va avoir quelque chose à faire pour ça. Et ce qui est frappant dans l'histoire de la tentation au désert, c'est comment Jésus-Christ, notre Sauveur, il mène la parole. Hein? Tu veux-tu en parler?
Jésus, il cite les Écritures, puis il va chercher le bon verset de suite. Pour les pains, il cite Deutéronome 8:3. Puis ça réfère aussi à la manne qu'il y a eu dans le désert, là, qui avait du pain gratis. Là. Mais ça, c'était du pain qui venait de Dieu. Ça sortait de la bouche de Dieu, si on veut. Puis il a parlé de vivre de toute parole qui vient de Dieu.
On dirait que l'image dans l'Ancien Testament, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de Dieu. C'est ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. Puis là, Jésus dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme si c'était une maman oisillon qui amenait la nourriture dans le désert, à ses petits oisillons. Donc, j'y vas-tu?
Oui, vas-y.
Je l'ai dit. Bon, OK. Dans le fond, c'est de ne pas laisser mes besoins pressants dicter de quelle manière ou de quel moyen illégitime je vais utiliser pour les combler. C'est pas parce qu'il y a un besoin que tout ce qui répond à ce besoin-là est bon. Et Jésus, il pouvait faire un miracle, faire apparaître du pain. C'était ce qui était à sa portée. Nous, quand on arrive chez nous, là, il n'y a-tu qui ont des grosses roches chez eux? Hein? De la grosse roche? Gilles, il y a de la grosse roche chez vous? T'es-tu tenté quand tu arrives dans ta cour et dis « Ah, oh, j'ai le goût de changer cette petite roche-là en pain. » Non, tu n'as pas cette tentation-là. Hein?
C'est pas bien bon pour les dents aussi.
C'est pas bon pour les dents. Donc, on n'est pas tenté de la même manière que le Seigneur. On est tenté de faire ce qui est à portée de main pour combler un besoin rapidement qui est à notre portée. Et c'est justement là qu'on a besoin de dire « Hey, ça ne sera plus automatique que je vais nécessairement combler un besoin à la manière la plus facile qui est à ma portée. Je vais poser des questions à Dieu par rapport à ça. » Pour cette femme-là, dans la vidéo, on a vu une jeune fille qui, dans la vidéo un peu plus tôt, a dit que son père est devenu mannequin, dans le fond, à l'âge de 11 ans, parce que la blonde de son père, elle avait une boutique. Puis elle a vu les yeux de son père, fière d'elle.
Carrément.
Puis là, elle a compris que son père était fier d'elle, puis c'était comme une récompense pour elle. Fait qu'à un moment donné, il disait des choses comme « Ah, tu commences à avoir des cuisses », des choses comme ça. Puis elle dit « Ça me faisait de quoi ?» Parce qu'elle me disait « Je veux pas qu'il soit déçu de moi ». Fait qu'elle s'est mise sur un programme de boulimie où, elle faisait un régime très, très, très strict pour sa nourriture. Puis, quand elle ne réussissait pas, elle se punissait en allant vomir sa nourriture pour rester toujours dans un poids qui était correct, tu sais.
Oui. Puis, qu'est-ce que Dieu, lui, il aurait voulu lui dire ou qui a fini par lui dire? Ben, premièrement, qu'elle était belle et précieuse pour lui. Qu'elle soit n'importe comment. Qu'elle est une créature belle et merveilleuse, créée à son image en plus. Créé à l'image de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Son corps, il est destiné à être le temple du Saint-Esprit. Pas qu'est-ce que les autres pensent de ça. Elle n'avait pas besoin, pas en tout, de qu'est-ce que le monde pense d'elle pour être heureuse. Même nous autres, des fois, en tout cas, moi, des fois. Là, tu te fais une misère avec ça. Être heureuse, puis avec elle-même aussi. Être en paix avec elle-même. Puis finalement, ben, si l'organisation de Miss Suisse romande ne l'acceptait pas comme qu'elle était, elle n'a pas besoin de ça pour vivre, finalement. Elle n'a pas besoin de ça pour tout. Mm-hmm. Zéro.
Tu as dit, ils lui ont dit bien gentiment qu'elle ne pourrait pas continuer, tu sais.
Ouais.
Mais ça a été quand même une porte ouverte pour se tourner vers le Seigneur.
Ouais.
Et elle dit qu'elle n'était pas rien sans ça.
Ouais.
Excellent. Jésus est tenté de se jeter en bas du temple, puis c'était une place qui était bondée de personnes, fait que les gens l'auraient vu, avec des anges qui arrivent, puis il vient de le déposer sur ses pieds, tu sais. Ça aurait été une belle entrée en gloire, là, pour qu'il soit accepté comme le Messie, le Sauveur, tu sais. Mais Jésus, il dit, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » Puis le verset vient d'un verset quand il était près dans le désert, puis on dit, « Dieu, es-tu là ou il n'est pas là? Il n'y a pas d'eau. Dieu, es-tu là ou il n'est pas là? » Puis Dieu, il dit, il a appelé cette place-là Meriba ou Massa, qui je pense, ça veut dire contestation. Puis il dit, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » Ça vient de ce verset-là. Qui est cité plus tard dans Deutéronome, qui dit « Ne tentez pas votre Dieu comme vous l'avez tenté au désert. » Puis Jésus dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel. » Puis ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait forcé Dieu à lui montrer son amour. Et parfois, on peut faire ça. Nous, on se pitchera pas en bas pour qu'il nous attrape et nous dépose comme avec des anges parce qu'il ne nous a pas fait ces promesses-là. Ils les ont faites au Messie.
Ouais.
Mais un des endroits où on peut essayer de prouver qu'il nous aime, c'est c'est pas grave si on pêche. Dieu nous aime. C'est pas grave, il y a la grâce. Ben oui, Dieu a dit qu'il nous ferait la grâce à chaque fois qu'on pêche, qu'il nous donnerait sa grâce. Pourquoi on dit que c'est pas une raison? Ben on dit comme dans Romains 6, est-ce que parce que la grâce abonde plus que le péché, pêcherons-nous davantage? Puis il y a cette idée que je peux pas forcer la grâce de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas vivre et dire « Je vais continuer à succomber à la tentation. C'est pas grave. De toute façon, Dieu va me pardonner. » Sans dire « Je vais m'attacher à la parole puis je vais me garder. » Nous aussi, on doit ne pas forcer la main de notre Dieu qui veut prendre soin de nous. Oui, il va nous relever tout le temps. Mais le péché va toujours venir avec ses conséquences, avec sa corruption, avec sa destruction. Puis, il va venir un grand prix attaché à ça. Mais une des choses qu'on a besoin de faire, c'est de ne pas créer une situation qui force Dieu à nous montrer qu'il nous aime. On n'a pas besoin de se mettre dans le pétrin pour que Dieu vienne nous secourir. On n'a pas besoin d'aller là, ça va arriver assez vite. Jésus va se faire pitcher en bas d'une montagne assez vite. Il va falloir que Dieu il protège de toute façon. Fait que Jésus dit, gars, j'ai pas besoin de tester que Dieu m'aime. Si je n'ai besoin, je sais qu'il va le faire, mais je ne veux pas l'utiliser comme un chèque en blanc pour faire, pour le tester. T'sais. Une autre chose, tu veux-tu parler du prochain?
C'est l'opage.
Ouais. On va passer directement au principe souligné, Ben, simplement à cause du temps, puis on veut faire la Sainte Cène aussi.
OK. OK. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on soit capable, c'est ça? De discerner?
Oui.
OK. Dieu, il veut qu'on soit capable de juger un peu les cadeaux qu'on peut savoir avant le temps, puis des fois avec des compromis. Pour savoir ça vient de qui, ça, puis qu'est-ce qui va arriver avec ça. 1 Timothée 6:10, comme, mettons, il parle de l'argent. Il dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Tous les maux, là, c'est beaucoup. « Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi. » Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Ça me fait penser à ce que Pasteur Richard disait dernièrement, c'est que quand on s'éloigne de Dieu, on ne s'éloigne pas toujours de façon évidente de Dieu. Parfois, on va être rempli de choses qu'on aime, plein de cadeaux. Même dans Israël, il va dire, ce sont les cadeaux de Dieu qui t'ont enflé le cœur. Ce sont les bénédictions que le Père t'a données qui t'ont enflé le cœur. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on devient occupé par plein de choses qu'on aime. Puis, on reçoit ça, ces cadeaux-là, pas de problème. Mais on devient indifférent à notre connaissance de Dieu, notre vie de disciple, notre témoignage chrétien, notre obéissance à chaque jour, notre ministère à l'église locale, notre service que Dieu nous a demandé dans le Seigneur. Tu sais. Et puis, donc, Satan ici, il a toutes les nations.
Ouais.
Il est capable de donner toutes les nations au Messie. Puis le Messie, il ne dit pas, « Hey, c'est à moi les nations. » Le diable, il se disait être le prince du monde, puis il est le prince du monde. C'est qu'il peut donner des promotions, il peut donner des jobs, il peut te remplir de biens, mon ami. Il peut me donner des biens à un point où j'aurais même plus besoin de choisir entre le royaume. Puis, j'ai plus de choix. J'ai choisi comme ces bénédictions, ces cadeaux-là. Donc, je pense que ça prend de la jugeote, hein? On disait ça prend du discernement pour dire que c'est pas tout ce qui est un cadeau devant ma porte qui est nécessairement une bénédiction que le Père envoie. Et à Jésus, ben, ces cadeaux-là étaient empoisonnés parce qu'il aurait fait le compromis. Si...
Oui. Puis, faut pas oublier de quoi? Le diable, il a sorti ses meilleures balles pour tirer. Puis ça n'a pas marché. Fait que là, il s'en va. Ben, ça dit qu'il s'en va jusqu'à la prochaine fois.
C'est si quand la prochaine fois?
La prochaine fois, c'est dans notre cas, nous autres, c'est un moment de faiblesse, d'affaires qui arrivent dans nos vies, d'affaires de même. Puis, il est prêt à revenir n'importe quand. Faut jamais oublier ça.
Donc, un dernier point, attendre que le Père bénisse. Tu sais, c'est beau, il y a des beaux cadeaux, tout ça, mais de dire, sais-tu quoi, je vais être patient. Je ne vais pas être impatient parce que je sais que Dieu, il est le Père des Lumières. Hein? Et le verset dans Jacques 1,12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la poussière dans mon ventilateur. Je suis continuellement en train de refaire mon sentier. Tout au long de ma vie chrétienne, je vais refaire mon sentier parce que j'ai eu des années sans Dieu. Puis à chaque fois que je marche dans ma chair, je marche sans Dieu, je fais des choix sans Dieu, je dois défaire ça. La prochaine fois, ça va devenir encore plus facile. Souvent, quand je conseille quelqu'un, je dis fais attention à comment tu décides de comment tu vas faire là parce que tu es en train d'endurcir ta manière de faire pour la prochaine fois. Puis c'est la même affaire avec Dieu ou avec le péché aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin du secours de Dieu pour dire hey, je dois défaire des sentiers puis refaire des nouveaux sentiers puis j'ai besoin de connaître qu'est-ce que Dieu me dit pour combler mon besoin puis que je marche dans ces voies-là. On va prendre la Sainte Cène ensemble. Puis la Sainte Cène, c'est ce repas-là qui nous rappelle que la grâce, c'est un miracle parce qu'un péché a fait qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin. De multiples péchés pendant de multiples années, plusieurs fois par jour que j'ai fait, je peux quand même revenir à Dieu aujourd'hui et dire « Aujourd'hui, je décide de faire des choix différents. J'accepte sa grâce. La grâce, ça me permet de renoncer à la convoitise. » Titre 2.12 dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce, ça dit « Hey, viens ici. Viens ici. Avant, tu faisais ça. Je te pardonne pour ça en passant. » C'est lavé, nettoyé, un ventilateur tout neuf. Avant, tu faisais ça comme ça. Maintenant, fais-le de notre manière. La grâce nous instruit à marcher dans la piété puis dans la sagesse pour qu'on puisse plaire à Dieu. Fait qu'aujourd'hui, on prend ce pain-là puis on va prendre ce vin-là, ce fruit de la vigne-là pour se rappeler que le péché a un prix. Il y a le prix de la croix. Puis parce que ça l'a coûté cher de réaliser que c'est aussi c'est par ce prix-là aussi qu'à chaque fois que je pêche, je peux confesser mon péché, puis la Bible va me dire que le sang de Christ va me purifier de tout péché. Fait que c'est quelque chose. On célèbre ensemble le miracle de la grâce, qu'après de multiples échecs, après de multiples égarements, après de multiples choses cachées dans mon garde-robe, je peux sortir, puis me mettre en plein jour, puis de dire, Seigneur, me voilà. Je suis fragile, j'ai besoin de toi. Merci pour ton pardon. Puis aide-moi à marcher dans une nouveauté de vie avec ta grâce. Le repas du Seigneur, c'est un bon moment aussi pour faire un check-up sur nous-mêmes puis de dire, est-ce que je confessais à date avec Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent dans ma vie que Dieu m'a parlé, m'a montré des choses? C'est de les confesser pour être en règle avec le Seigneur. Parce que ce repas-là représente que je suis racheté par Jésus-Christ à un grand prix et qu'il habite en moi. Donc, je suis maintenant le gérant de la place, on peut dire, mais en son nom. Fait que c'est son corps à lui. Puis je veux l'honorer avec mon corps. Fait que c'est solennel de dire, OK, s'il y a quelque chose que le Seigneur a amené à mon attention, je vais le confesser avec ma bouche, simplement en disant ce que c'est. Puis je vais lui demander pardon. Des fois, un repas du Seigneur, c'est un bon moyen aussi pour aller réparer des gens ou les choses qu'on a lésées ou des choses qui se sont passées. tu peux quand même prendre le repas, mais assure-toi que si ça met des choses sur ton cœur, tu peux aussi te réconcilier quand que c'est à toi de faire quelque chose, comme une demande de pardon ou des choses comme ça. Fait que sur ce, Ben, je vais te demander, on va chanter un chant pendant ce temps-là, on va se préparer pour prendre les éléments ensuite.